C'est au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. La technologie de l'intelligence artificielle se déploie désormais activement dans le domaine du bien-être social. Une collectivité locale de Séoul a introduit, pour la première fois en Corée du Sud, des lunettes intelligentes dotées d'IA dans ses services administratifs. Ce projet a pour but de faciliter la communication avec les familles multiculturelles, les personnes malentendantes et les étrangers. Nous commençons l'édition de ce mercredi avec cette nouvelle. L'arrondissement de Songpa à Séoul attire l'attention en distribuant des lunettes intelligentes dotées d'IA pour venir en aide aux habitants rencontrant des difficultés de communication. La municipalité a annoncé qu'à partir de juillet, ces lunettes seraient distribuées à des foyers ainsi qu'aux guichets d'accueil administratif dans l'arrondissement. Ce projet a été conçu pour soutenir la communication des étrangers qui rencontrent des difficultés à s'exprimer en coréen ainsi que les personnes en situation de handicap. Il vise aussi à intégrer des technologies intelligentes dans les services publics. Songpa compte environ 9 000 personnes issues de familles multiculturelles et 6 000 étrangers enregistrés. Les lunettes intelligentes convertissent la parole en texte en temps réel grâce à l'IA, puis la traduisent en 15 langues différentes pour l'afficher sous forme de sous-titres. L'arrondissement a été sélectionné en avril dernier dans le cadre du programme de soutien aux start-up spécialisées dans les technologies gouvernementales du ministère des Sciences et des TIC. Grâce à ce projet, il a obtenu un financement d'environ 125 000 euros. Cette somme permettra de fournir 90 appareils intelligents, dont des lunettes d'IA, à des habitants locaux. Des tablettes seront également mises à disposition pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les conversations et à exprimer clairement ce qu'ils souhaitent dire à leurs interlocuteurs. La municipalité prévoit de fournir une paire de lunettes intelligentes et une tablette à 30 foyers sélectionnés parmi les familles multiculturelles et les étrangers qui ne maîtrisent pas bien le coréen, ainsi que les personnes malentendantes. Ces dispositifs seront aussi installés dans les centres d'accueil administratifs et les centres locaux des services communautaires. Objectif, offrir un service précis aux visiteurs confrontés à des barrières linguistiques. Pour éradiquer la conduite sous l'emprise de l'alcool, la police procède à la saisie et à la confiscation des véhicules impliqués dans des infractions graves liées à l'alcool au volant depuis le 1er juillet 2023. Cette mesure a été mise en place en réponse à une série d'accidents, notamment celui survenu en avril 2023 à Daejeon, où un écolier a perdu la vie et trois autres ont été blessés par un chauffeur en état d'ivresse. La saisie concerne d'abord les cas où une personne ayant conduit en état d'ébriété au moins deux fois au cours des cinq dernières années a provoqué un accident ayant entraîné des blessures graves. Elle s'applique également aux véhicules dont le conducteur a été contrôlé positif à l'alcool au volant au moins trois fois au cours des cinq dernières années. Le nombre de véhicules saisis est en augmentation, passant de 170 en 2023 à 370 l'année dernière. Le problème réside dans le stockage de ces véhicules. Avant leur transfert au parquet, ils doivent être entreposés sur les parkings des commissariats. Après la transmission à la justice, leur garde est confiée à des entreprises mandatées. Cependant, aucun financement n'est prévu pour la période d'enquête menée par la police. Comme l'espace dans les parkings est limité, les commissariats locaux font face à un manque de place. Pour résoudre cette problématique, l'Agence nationale de la police a entrepris des démarches pour obtenir un budget destiné à confier ce stockage à des entreprises extérieures. Il est estimé que le coût mensuel par véhicule s'élèverait à environ 60 à 160 euros. Nous enchaînons avec une histoire qui pourrait sembler sortir d'un film. Un homme découvre, grâce au groupe sanguin de sa fille, qu'il n'est pas son père biologique. Ce témoignage a récemment été partagé dans une émission de radio consacrée au conseil juridique. Voici ce qui s'est passé. Cet homme, appelons-le Kim, est envoyé en mission professionnelle à Dubaï. Il a une adorable fille âgée de 7 ans. Comme elle fréquente une école maternelle en Corée du Sud, il ne peut pas la voir régulièrement. Mais elle vient passer les vacances chez lui avec sa mère et ils passent alors des moments heureux en famille. C'est pendant les dernières vacances d'hiver que Kim a commencé à avoir des soupçons. Un soir, en regardant le visage endormi de sa fille, il s'est soudain demandé à qui elle ressemblait. Il s'est rendu compte qu'elle ne ressemblait ni à lui ni à sa femme. À ce moment-là, un pressentiment étrange l'a traversé. Plus tard, il a demandé à son enfant son groupe sanguin et elle a répondu qu'elle était de groupe O. Or, il est de groupe AB et son épouse est de groupe B, ce qui rend génétiquement impossible que leur enfant soit de groupe O. Sous le choc, Kim a immédiatement pris un congé et est retourné en Corée. Il a fait effectuer un test ADN qui a révélé que l'enfant n'était pas sa fille biologique. Lorsqu'il a interrogé sa femme avec insistance, celle-ci s'est effondrée en larmes. Elle lui a avoué qu'elle avait eu une liaison avec un autre homme et qu'il s'agissait très probablement de l'enfant né de celle-ci. Kim était bouleversé et accablé par la douleur. D'un côté, il pensait que la fille n'avait rien fait de mal, mais d'un autre, il était écrasé par le sentiment de trahison envers son épouse. Finalement, il a jugé qu'il fallait rétablir la vérité. Cependant, comme l'enfant est encore jeune, il était difficile pour lui de rectifier immédiatement le registre d'état civil familial. Il souhaitait donc attendre qu'elle grandisse et soit capable d'accepter la vérité avant de procéder à cette correction. C'est pourquoi il a demandé conseil à cette émission. À ce propos, un avocat a expliqué que selon la loi, un enfant conçu pendant le mariage est présumé être celui du mari et est inscrit comme tel dans le registre de l'état civil. Ainsi, même si un test ADN prouve qu'il n'est pas le père biologique, Kim est juridiquement considéré comme le père de l'enfant et reste soumis à l'obligation légale de l'élever. Il est possible qu'il engage une action en justice pour contester la paternité de la fillette née pendant son mariage afin de corriger le registre d'état civil. Toutefois, elle doit être intentée dans les 2 ans à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance des faits. L'avocat lui a donc conseillé de réfléchir attentivement pendant ce délai afin de décider s'il souhaite maintenir ou non la relation de père avec l'enfant. Avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons justement une chanson inspirée des groupes sanguins. Voici « Nous et Pio » interprétée par FX.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 2 juillet, vous êtes en compagnie de Ko Jong-san. Il y a quelques jours, une panne de courant soudaine est survenue dans un complexe d'appartements sur l'île méridionale de Jeju. Cet incident a causé des inconvénients aux habitants. Or, son origine n'était pas un défaut technique ou un problème mécanique. La cause était un corbeau. Que s'est-il donc passé? Selon les services de sécurité incendie de Jeju, le 23 juin, vers 18h, un transformateur sur un poteau électrique situé près d'un complexe d'appartements dans la ville de Jeju a été endommagé, ce qui a provoqué l'interruption d'alimentation électrique de plus de 300 foyers. Cet incident a également entraîné l'arrêt des ascenseurs dans le complexe et plusieurs résidents s'y sont trouvés bloqués. Le service des secours publics d'urgence a reçu 8 signalements à ce sujet. Les pompiers sont intervenus sur place pour les secourir. Un responsable des pompiers a déclaré que l'accident semblait avoir été causé par un corbeau. Selon lui, ce dernier serait entré en contact avec le transformateur, ce qui aurait déclenché la panne. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances exactes. D'après les témoignages des habitants, un grand boom s'est fait entendre dans la résidence. Les vérifications des pompiers et de la police ont permis de localiser l'origine du bruit. C'était le transformateur sur un poteau électrique installé sur le trottoir à l'entrée du complexe. Sous le poteau, un corbeau a été retrouvé mort, électrocuté, tombé au sol. La compagnie d'électricité de Corée est intervenue pour un dépannage d'urgence et a pu rétablir l'alimentation électrique environ une heure plus tard. Les dégâts causés par les corbeaux sont en augmentation ces derniers temps. Non seulement ils endommagent les cultures, mais ils provoquent aussi souvent des pannes de courant en picorant des câbles électriques pour y attraper des insectes. Pour ces raisons, en décembre 2023, ils ont été classés comme animaux sauvages nuisibles. Il est estimé que leur population a été multipliée par 10 pendant ces 5 dernières années et on peut les voir de plus en plus fréquemment en ville. Alors pourquoi se sont-ils installés en milieu urbain? Les principales raisons évoquées sont les suivantes. Le développement de leur habitat comme les forêts denses, l'extension des parcs et des espaces verts dans les villes, l'augmentation de la nourriture comme les déchets alimentaires, la diminution des pies qui sont en compétition avec eux, ainsi que le temps hivernal plus tôt. Nous continuons sur le sujet de l'environnement. Le district d'Ultin, dans le sud-est du pays, est situé à plus de 200 km de l'île méridionale de Jeju. Or, une étude a révélé que les caractéristiques génétiques des conques découvertes dans la ville côtière étaient identiques à celles vivant au large de l'île. Comment cela s'explique-t-il? Une équipe de recherche de l'Institut des sciences et technologies marines de Corée et une équipe du Centre de recherche des zones intertidales de l'Institut national des sciences halieutiques ont analysé les caractéristiques physiologiques, écologiques et génétiques des mollusques vivant à Jeju et sur la côte est du pays pour parvenir à cette conclusion. Selon l'enquête nationale exhaustive sur les écosystèmes marins du pays, menée par la Compagnie coréenne de gestion de l'environnement marin, les conques, qui vivaient principalement sur la côte sud, située entre 33 et 35 degrés de latitude nord, avaient étendu en 2018 son aire de répartition jusqu'à la région d'Ultin, à 37 degrés de latitude nord. Son habitat s'est ainsi déplacé d'environ 220 km vers le nord. En se fondant sur cette enquête, les chercheurs ont analysé l'impact du phénomène de désertification marine causé par le changement climatique sur les organismes dans l'écosystème du fond marin. Ils ont ainsi confirmé l'identité génétique de ces coquillages vivant dans les deux zones. Selon leur explication, le déplacement vers le nord de l'aire de répartition des mollusques de la mer du Sud vers la côte est est étroitement lié à l'élévation de la température de l'eau due au changement climatique. Cela signifie que la limite nord de la zone habitable des espèces marines se déplace progressivement. Cette étude a également permis de vérifier que la principale cause du déclin de la population de conques était la diminution de leur immunité causée par la hausse de la température de l'eau. Jusqu'à présent, on supposait que la désertification marine au large de Jeju avait modifié leurs ressources alimentaires et provoqué la baisse de leur population. Mais cette fois-ci, il a été constaté que le facteur principal était plutôt la diminution de leur immunité dans un environnement à haute température. Au printemps, lorsque les cerisiers sont en fleurs, de nombreuses personnes vont les admirer. À Séoul, le lieu le plus réputé pour ses fleurs est l'île de Yeouido, située sur le fleuve Han qui traverse Séoul. Pendant le festival des fleurs de cerisier qui s'y tient chaque avril, la rue de Yunjungno est saturée de monde. Or, un rapport récemment publié avance que dans le passé, le haut lieu des fleurs de cerisier dans la capitale n'était pas cette île, mais le quartier de Suyu dans l'arrondissement de Gangbuk. Il s'agit du rapport intitulé « Le quartier de Suyu, ville lente, communauté vivante » publié la semaine dernière par le musée d'histoire de Séoul. Ce document retrace de façon microscopique 150 ans d'histoire du quartier. Il décrit son évolution des années 1860 jusqu'à aujourd'hui autour de trois axes. La culture du quotidien, les événements historiques et la rénovation urbaine menée par les habitants. Il révèle ainsi que Suyu n'est pas seulement une zone résidentielle, mais qu'il est le premier grand lieu de cerisier en fleurs à Séoul. Suyudong est situé dans une vallée du mont Pukan. Grâce à ses superbes paysages naturels, tels que les chutes d'eau de Sudo et de Kuchon, il était autrefois surnommé « site pittoresque caché ». La plantation de cerisiers dans cette zone remonterait au XVIIIe siècle. Selon les sources, Hong Yanghu, un lettré de la fin du royaume de Joseon, avait sa résidence secondaire dans le quartier Tui, avoisinant Suyu. Ayant entendu parler de la beauté d'un arbre à fleurs au Japon, il aurait fait venir plusieurs centaines de jeunes plants de cerisiers pour les planter. Il s'agirait de la formation d'un massif de cerisiers antérieur à ceux du palais de Changgyeong ou de Yeouido. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Ohayon. Avant de la rejoindre, écoutons une chanson de Bosco Bosco, Cherry Blossom Ending. 그대여, 그대여.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Oh Ha-young et Kim Hong-joo.
Bonsoir à tous, Eminem est un duo français composé de Mathias Augustiniak et Michael Amzalag. De l'art contemporain à la mode, en passant par la photographie, la musique, le théâtre ou encore la publication, il élargit les frontières du graphisme à travers ses réalisations interdisciplinaires depuis 1992. Du 4 juin jusqu'au 14 septembre, nos invités tiennent une exposition sous le thème de la magie à Busan, située dans le sud-est de la Corée du Sud. Nous avons profité de leur venue au pays du matin clair pour les interviewer. Bonjour messieurs et merci de nous avoir accordé cet entretien à distance. Pour commencer, pouvez-vous saluer nos auditeurs ?
Bonjour, Michael Amzalag. Bonjour, Mathias. Augustiniak.
Alors Mathias, est-ce que c'est votre première visite à Busan ?
Michael et moi, on est venus depuis très longtemps en Corée. Depuis 20 ans, on a visité la Corée, mais on n'était jamais allé à Busan.
Alors comment vous vous êtes senti en apprenant que vous allez exposer dans cette ville portuaire, souvent comparée à Marseille ?
Effectivement, beaucoup de gens comparent cette ville à Marseille, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec Marseille. Hein. C'est beaucoup plus grand et ça s'est construit beaucoup plus rapidement que Marseille. En fait, c'est une ville qui s'est modernisée extrêmement rapidement. Après, c'est une ville magnifique parce qu'elle est extrêmement contrastée. Il y a la mer, il y a la montagne et puis il y a beaucoup d'urbanisation, enfin de grands ponts, des grands bâtiments. Et du coup, c'était très intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter culturellement à cette ville.
Alors, qui pourrait nous parler du thème de l'exposition qui est la magie ? Comment est née cette idée originale ?
C'était plus un essai de décrire ou en tout cas de définir la façon dont on travaille. Parce que souvent, on essaie de décrire la façon dont on travaille et il y a forcément ce qu'on fait avec. Ça fait depuis 30 ans qu'on travaille avec Michael. On a beaucoup de mal à définir ce qu'on fait, mais depuis 30 ans, on existe et on a fait de nombreuses expositions, on fait des projets de nature très différentes. Mmh. Et aujourd'hui, pour décrire notre travail, c'est assez mystérieux. Donc c'est assez, par extension, magique, mais du coup, c'est une façon très prosaïque aussi de dire comment on explique aux gens notre processus de travail, et en tout cas, comment on le montre dans une exposition. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est que l'exposition est articulée autour du jeu de tarot. Et le jeu de tarot, alors de façon très un peu facile, on lui prête une force magique, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans le jeu de tarot. C'est plus le fait que c'est 76 cartes qui contiennent un monde entier. Et donc du coup, c'est ça un peu la structure de notre exposition. C'est ce jeu de tarot qui est réinterprété selon nos approches graphiques et visuelles et idéologiques.
Alors, combien d'œuvres avez-vous préparées et quels sont les trois qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Trois, ça serait un petit peu limitatif parce que, par exemple, déjà, il y a 76 cartes de tarot. Mm-hmm. Puis après, il y a un film qu'on a fait il y a 20 ans sur un opéra d'Antigone. Et au plafond, sont suspendues plus de 200 affiches. C'est un peu compliqué pour moi de dire, voilà, quelles sont mes trois œuvres préférées. Ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est l'exposition qui fait œuvre. C'est cet ensemble, c'est cet espace. Mm-hmm. Donc c'est plus dire, voilà, quelle est ma salle préférée, on va dire. Mm-hmm. Alors après, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir une œuvre qu'on a fait il y a 20 ans, qui est ce film d'après... un opéra de Traïta et que l'on a filmé. Et cet opéra s'appelle Antigone. Mmh. Il avait été monté à Montpellier il y a 20 ans et puis aussi après, il avait été joué au Châtelet. Il est représenté, on ne l'avait pas revu comme ça, installé depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années.
Mmh. Beaucoup d'émotions alors.
Ah ben oui, c'est pour ça. C'est que effectivement, cette exposition, elle est très contrastée parce qu'elle a un côté très... jeune, parce que enfantine, pas enfantine, mais un peu comme on dit l'enfance de l'art, ou très spontanée, la première salle est comme ça, elle est très contemporaine, et plus on s'enfonce dans l'exposition, plus on a l'impression de rentrer dans une grotte, ou dans un... Alors après c'est prétentieux, mais il y avait presque même le fantasme d'être dans la grotte de Lascaux, tellement il y avait de choses, tellement les murs et les sols et le plafond est recouvert.
Alors, quelles sont les réactions des visiteurs rencontrés sur place ?
J'ai bien senti que, passé les deux premières salles, lorsqu'ils rentraient dans la pièce principale, qui pourrait être comparée à une nef ou à une contenante dans une église, mais ou alors dans une grande pièce de bal dans un château, tout d'un coup, il y avait beaucoup d'émotions parce que l'espace est énorme et... tout d'un coup, je pense que le visiteur est complètement surpris par les échelles que chacune des œuvres ont dans ce lieu. On voit des choses toutes petites et des choses énormes. Donc on a du mal, en tant qu'être humain, à se dire « quelle est ma place ?» Donc il y a effectivement un processus avec des moyens très simples, un peu magiques, un peu déroutants. Et pourtant... il n'y a rien de très spectaculaire, mais c'est justement le contraste entre les échelles, les matériaux aussi. Ce qui est assez réussi, c'est qu'il y a on a affiché nos affiches sur un porte-affiche qui est comme un mobile, donc qui font penser à des mobiles de caldeire. Donc toutes les affiches qui sont accrochées au plafond, on a l'impression un peu qu'elles viennent de s'envoler. Et quand on se retourne, on voit une... bibliothèque complètement démesurée qui mesure 5 mètres de haut. Et c'est en fait une version agrandie d'une étagère qu'on avait montrée dans une exposition à Copenhague qui était dédiée à tous les livres sur lesquels on a pu travailler depuis qu'on travaille ensemble, Michael et moi.
Alors, on sent un peu comme Alice au Pays des Merveilles.
Oui, ce serait l'image la plus simple.
Mm-hmm. De retour en France, si vous pouviez faire un tour de magie, parmi tout ce que vous avez apprécié ici, que souhaiteriez-vous faire sortir de votre chapeau?
Ce qui est appréciable, j'ai mangé une glace pilée.
Le Papinso sûrement.
Qui était accompagné de haricots rouges.
Oui.
Et il y avait on pouvait boire du thé avec et c'était absolument extraordinaire. Si on pouvait amener ça en France, mais en même temps, ça n'aurait pas le même goût parce que je pense que c'est souvent décevant ce genre d'expérience. C'est pareil pour notre exposition, c'est-à-dire que on a l'impression qu'elle pourrait avoir lieu dans tous les endroits de la Terre, mais en même temps, elle a ici un goût extrêmement particulier.
Tout à fait.
C'est pour ça que c'est intéressant de la voir. Ce qui serait pas mal, c'est plutôt de retour en France, de permettre à certaines personnes qu'on connaît de pouvoir se téléporter pour aller voir notre exposition. Mm-hmm. Ça, ce serait un vrai tour de magie.
Merci pour cet entretien et j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir prochainement dans notre studio à Séoul.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci. À très bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koh Jong-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.